Vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
Allez, c'est parti pour les auditeurs ont la parole. Première invitée, on dialogue avec vous, chers auditeurs, dès maintenant au 3210. Florence Berthelot, déléguée générale de la FNTR, Fédération Nationale des Transports Routiers. Bonjour.
Bonjour.
On va s'arrêter ensemble sur un constat qui est à peine croyable, d'ailleurs, quand on sait que des millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi. On doit faire face, dans notre pays, en 2017, à une pénurie de chauffeurs routiers. 20 000 postes à pourvoir, Florence Berthelot. C'est une estimation, mais c'est la réalité, ça.
Oui, il s'agit de postes de conducteurs routiers, mais pas que. Il s'agit de tous les postes, en fait, dans notre secteur d'activité.
Et actuellement, c'est-à-dire des mécaniciens, par exemple.
Ça peut être des mécaniciens, ça peut être des caristes, c'est même dans les postes d'exploitation, des sédentaires. Donc, on a une vraie pénurie. C'est un constat qui est fait depuis de nombreux mois et qui s'aggrave. Et c'est pour ça que nous avons lancé une action forte à plusieurs organisations professionnelles qui s'appelle Tremplin, visant justement déjà à recenser les besoins des entreprises précisément par bassin d'emploi, puisque le secteur du transport routier exerce sur l'ensemble du territoire, et pour justement trouver des candidats.
À quoi est-ce dû ?
Ça peut être dû à beaucoup de choses. En fait, on avait senti cette pénurie déjà il y a une dizaine d'années avant la crise. Il faut savoir, le secteur a maintenu les emplois pendant la crise. Mm-hmm. Il en a pas détruit. Mais malheureusement, effectivement, les besoins n'ont pas été à ce moment-là très importants. Et on sent qu'il y a eu un creux, en fait, dans la venue dans notre secteur des transports. Et au moment où on sent un frémissement, une activité qui repart, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une population qui vieillit. Et puis des personnes qui ne sont pas rentrés. Et donc là, maintenant, il nous faut faire rentrer des personnes, jeunes. Des jeunes, ou des moins jeunes, ou des personnes en reconversion. C'est un secteur très ouvert à tous les niveaux de qualification pour justement, si besoin, même les former pour intégrer des postes en CDI. Ça, il faut savoir le dire, dans nos entreprises.
Voilà, il y a des emplois précaires.
Ouais, il y a du boulot en la matière. Hein. Sébastien nous rejoint, tiens, auditeur de Bretagne, qui est chauffeur poids lourd et qui a 39 ans. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour.
Ravi de vous accueillir, Sébastien. Le constat de ces quelques mots que vous venez d'entendre, vous le connaissez, vous le partagez. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, par exemple, à votre fils de faire votre travail à vous ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que le métier s'est dégradé il y a déjà longtemps. Peut-être même un petit peu plus longtemps que madame l'a dit. La plus grande auto-école qui a fait des vrais routiers à une époque, c'était l'armée.
Oui.
On sortait de l'armée avec le permis poids lourd. On ne sait pas quoi faire de nos 10 doigts et on partait en national ou en international. Après, on a arrêté l'armée et on a mis ça dans les mains de centres de formation. Nous, en Bretagne, il nous manque 3000 chauffeurs. Nos patrons nous demandent, juillet et août, de ne pas prendre de vacances pour pouvoir faire face au surcroît d'activité. Les centres de formation, ils sont remplis de candidats. Les délais d'attente sont immenses. Par contre, à l'intérieur, ce sont que des gens qui sont là que pour acquérir des droits civiques. Et comme ils sont là, ils sont pendant les statistiques de chômage. La vraie réalité, elle est là déjà. Moi, j'ai vu former dans la boîte où j'étais des gars. Ils avaient été enfermés pendant 6 mois dans un centre. Ils ne savaient même pas faire une marche arrière avec un camion. Ils ne savaient même pas accrocher une remorque.
Donc pourquoi font-ils cette formation ? J'ai pas bien compris.
Pour acquérir des droits civiques. Quand on leur demandait pourquoi tu as fait ça, parce que j'étais en fin de droit. Et ils me supprimaient tout si je faisais rien d'autre.
Vous allez dans le secteur du rapport à Pôle emploi, vous voulez dire.
Par rapport à Pôle emploi, vous allez dans le secteur du bâtiment, c'est exactement pareil. Il y a des boîtes qui ferment parce qu'ils ne trouvent pas de main-d'œuvre. Le premier problème, il est là. Le deuxième, là, j'ai entendu ça ce matin à radio, j'étais fou. Quand je vois les accords qui ont été mis, là, le dumping social, on n'en a pas encore parlé. Les petits camions 3,5 tonnes, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont en train de nous tuer ? Ça fait 15 ans que ça dure, le cinéma, là. Quand on a le premier qui a été montré du doigt, c'était Willy Bess, qui a 20 et quelques années en arrière, qui faisait rouler des Bulgares et compagnie à 800 €. Aujourd'hui, c'est toutes les boîtes étrangères qui font rouler leurs gars au tarif-là sur le national français.
Sébastien, vous allez rester avec nous, bien sûr, pour prolonger ce constat avec Florence Berthelot de la FNTR, avec les auditeurs qui vont s'exprimer aussi, parce que, évidemment, on va avoir du monde à vouloir prendre la parole, comme Alain, comme Gérard, ils sont déjà au standard. On vous attend, 3210, 3210, le débat est lancé sur la première radio de France, et vous allez cliquer aussi, donner vos sentiments, s'il vous plaît, sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. À tout de suite.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
20 000 postes sont à pourvoir dans le secteur des transports routiers et pourtant on manque de bras. On parle de ce paradoxe avec Florence Berthelot, déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers et avec bien sûr votre expérience, votre expertise au 3210. Bonjour Alain.
Bonjour Christelle, bonjour Stéphane.
Bonjour Alain.
Bonjour à vos auditeurs.
Soyez le bienvenu. Vous êtes chauffeur routier dans l'Yonne, c'est ça ?
Je suis chauffeur routier dans l'Yonne, dans une entreprise qui était ancestralement à Chablis, dans le 89. Mmh. Et donc, nous avons déménagé depuis plusieurs mois, près d'un an maintenant. Nous nous sommes agrandis et nous avons déménagé à Auxerre, dans une zone industrielle à Monnetot, pardon, très exactement.
Oui.
Nous avons au sein... Alors, mon collègue tout à l'heure qui a parlé, je rejoins son avis en règle générale, mais moi, je vais pas noircir le tableau. On sait que c'est difficile, on sait qu'il y a une concurrence déloyale, je ne vais pas enfoncer le clou. Moi, je voudrais mettre l'accent sur l'attrait du métier. Je suis, comme je le dis et je le vis sincèrement, je suis passionné par mon métier. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des contraintes. J'étais sur la route à 1h du matin lundi. Oui, bien sûr, il y a des contraintes, mais dans tous les métiers. Vous savez, j'ai fait d'intérim en usine et je n'y retournerai pour rien au monde. Mais je ne laisserai tomber mon camion pour rien au monde. Mon entreprise, là, nous sommes sur le point de nous agrandir. Mon employeur fait rentrer un peu plus d'une dizaine, près d'une quinzaine de véhicules en plus. Nous allons élargir notre parc et nous recrutons régulièrement. Nous avons
Vous trouvez, donc dans votre entreprise,
alors,
on trouve.
Je vais terminer ma phrase si vous me le permettez, Christelle. Nous avons des centres, nous avons des centres de formation, Forger Formation, FTI Team, etc. Autour de nous. Nous embauchons des gens, mais souvent, parfois, et je le regrette, dans les centres de formation, on leur fait miroiter tout et n'importe quoi. On leur fait croire, ou tout du moins, on les laisse croire, les futurs conducteurs, on leur laisse croire qu'en rentrant chez eux tous les jours, en voyant grandir leurs enfants, ils auront le même salaire que celui qui, comme moi, et comme bon nombre de mes collègues, hommes et femmes, sommes sur la route toute la semaine. Et parce qu'on aime ça, on n'y est pas, moi je n'y suis pas contraint. Dans notre métier, il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail pour celui qui veut rentrer chez lui tous les jours, mais il y a aussi du travail pour celui qui, comme moi, est passionné. Nous avons donc, nous recrutons donc régulièrement et nous avons mis en place, mon employeur a mis en place depuis de plusieurs années, une forme de parrainage. C'est-à-dire que dernièrement, dans l'ordinateur de bord, nous avions un message de notre responsable RH qui nous disait que si nous connaissons des candidats, et j'insiste, sérieux, des candidats qui veulent faire ce métier et pas une lubie ponctuelle, eh bien, nous sommes invités à les diriger sur notre pôle ressources humaines et nous sommes, si la personne fait l'affaire, qu'elle respecte scrupuleusement, et j'insiste, la réglementation sociale, et je rejoins tout à l'heure un de vos intervenants qui disait qu'on a une réglementation en France et on s'y tient. Ouais. Alors, il y a toujours les brebis galeuses, mais je n'en parle pas. C'est une minorité. Eh bien, si cet individu fait l'affaire, le salarié de l'entreprise qui a dirigé ce conducteur potentiel...
Oui, le parrain,
Voilà, le parrain. On a une indemnité de quelques centaines d'euros qui nous est versée, je crois, s'il est là encore au bout de 6 mois, etc., etc.
Voilà, une prime, quoi, voilà, récompense, en fait.
Une prime de parrainage, vous connaissez ce système, Florence Berthelot ?
Non, je ne le connais pas, mais moi, ce que je note des deux témoignages d'auditeurs, c'est que ce sont les conducteurs qui parlent le mieux de leur métier. Et je suis ravie d'entendre, parce qu'on dit tellement de choses sur notre secteur, mais il y a des gens passionnés d'abord parce que c'est un vrai métier, c'est une vraie profession, on ne s'improvise pas conducteur, il y a des formations derrière et puis il y a un professionnalisme qu'il faut savoir reconnaître, ce sont des pros de la route, les conducteurs routiers,
il aime son métier, Alain,
et ce que j'entends c'est effectivement cette espèce de décalage qui est ressenti par rapport au centre de formation. Alors là-dessus je mettrais un petit bémol. On a d'excellents centres de formation, c'est indiscutable. La profession a mis ça au point depuis des dizaines d'années. Mais de fait, il y a eu aussi des politiques publiques autour de la formation qui ont fait venir un certain nombre de personnes dans ces centres qui sont formées. Et on a pu noter, et c'est vrai ce qu'a dit le premier auditeur, qu'en fait, en sortant de là, ils n'allaient pas dans notre secteur. Et on ne sait pas où ils allaient.
Ils sont juste venus pour recharger leurs droits à Pôle emploi.
Alors, je ne sais pas s'ils sont venus recharger leurs droits à Pôle emploi.
Tout à l'heure,
ce qui est certain, c'est que Pôle emploi a du mal à comprendre que nous soyons parfois en tension, puisqu'ils nous disent, nous, on a plein de candidats sur nos listes. Mais en fait, nos professionnels vont regarder les listes, en réalité, il y en a très peu qui sont employables. Et effectivement, la question du parrainage est intéressante parce que je crois qu'il n'y a pas mieux qu'un conducteur routier pour repérer le bon candidat. Mmh. Et souvent, d'ailleurs, en entreprise, ils sont les tuteurs ou les moniteurs des nouveaux. Et ça, c'est une transmission.
Alain, vous restez avec nous, s'il vous plaît. On va donner la parole à l'un de vos collègues. C'est Sébastien, qui est un auditeur de Vendée et un chauffeur routier, bien sûr. Bonjour, Sébastien.
Est-ce que Sébastien nous entend ? Bonjour.
Oui, oui. Ben moi, ce qui me fait réagir, si vous voulez réattirer du monde, ce qui serait bien, c'est que Monsieur Macron tienne une de ses promesses, c'est redifiscaliser les heures sup, ouais. Parce que notre métier, c'est énormément d'heures supplémentaires.
C'est vrai.
Et je peux vous assurer que nos patrons seraient contents parce qu'ils y gagneraient déjà sur les charges. Et moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Sur le dernier quinquennat, j'ai perdu 7 500 € sur mon salaire en 5 ans. Ce qui est quand même pas une paille.
Donc
c'est pas étonnant parce que en général les jeunes sont embauchés. Alors c'est des coefficients, coefficient 138. Quand vous regardez le nombre d'heures que vous faites avec les horaires décalés et ainsi de suite, vous apercevez que vous ne gagnez même pas le SMIC. Donc ça intéresse pas les jeunes. Moi je partais à la semaine avant. Je partais même à l'étranger. J'ai arrêté pour avoir une vraie vie de famille. Je rentrais chez moi le samedi après-midi. Je repartais dans la nuit du dimanche au lundi. Donc on a oui, il faut aussi prendre ça en compte.
Donc et malheureusement, les gens... c'est aussi un choix de vie, Sébastien.
C'est un choix de vie. Il faut pouvoir conjuguer les deux. Moi, mon métier, être sur la route, mais comme disait Alain, mais c'est une passion. J'adore ça. J'adore être sur la route tous les jours. Je pourrais pas travailler en usine. Mais il faut aussi comprendre que malheureusement, les jeunes, ils veulent aussi avoir une vie de famille, ce qui est tout à fait normal. Ils veulent construire une vie de famille. Et notre métier, ben, c'est quand même pas très évident. Faut le reconnaître.
Florence Berthelot, quelle est la part de routiers qui rentrent à la maison tous les soirs et ceux qui sont en longue distance, donc qui partent toute la semaine, on le sait
aujourd'hui. Il y a de moins en moins de longue distance, en fait. La distance moyenne de transport en France, c'est 130 km. L'essentiel des transports...
130 km, c'est très peu.
C'est très peu, contrairement à ce qu'on imagine.
Ouais.
Ce sont des moyennes, donc ce n'est pas du tout ce que font les conducteurs au quotidien. Et en entendant les différents témoignages, il est vrai qu'il faut souligner qu'il y a des postes pour tout le monde. Il y a ceux qui font de la longue distance, donc ils peuvent être absents et font éventuellement plusieurs soirs par semaine, mais il y a ceux aussi qui peuvent revenir, on dirait, le soir chez eux, etc. Ce que dit le dernier auditeur, il a raison, c'est peut-être, je pense, plus largement un problème de rapport au travail d'une nouvelle génération pour qui le transport routier, ils ne savent pas trop ce que c'est, en fait. Et je pense qu'il y a un gros travail qu'on doit mener, aussi bien du côté des entreprises que du côté de ceux qui sont les salariés, pour mieux faire connaître nos métiers, nos activités, parce que ce qui est aussi intéressant, et ça c'est une caractéristique transport, c'est la passion, et ça a été dit par vos auditeurs.
On l'a bien entendu, il y a 20 000 postes à pourvoir dans ce secteur. On en parle encore et toujours avec vous. On va donner la parole dans un instant à Gérard, lui voudrait bien justement redevenir chauffeur routier, et ça n'a pas l'air aussi simple. À tout de suite.
Stéphane Carpentier,
Christelle Rebière.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Vous le savez, les routiers sont sympas sur RTL, ça c'est bien connu, mais vous ignorez sans doute que 20 000 postes sont à pourvoir dans ce secteur. Alors on en parle avec vous au 3210 et sur notre page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole, Laurent Tessier.
Ouais, le résumé des conditions de travail de la profession nous vient de Frédéric. Manque de considération et de soutien de la part de nos employeurs face aux clients, salaire très peu attractif. Autre Frédéric qui nous écrit sur la page Facebook, je suis gérant d'une petite société de transport, mon chiffre d'affaires a chuté de 40% en 3 ans à cause de la concurrence déloyale des Polonais principalement. Erwan est chauffeur international depuis plus de 20 ans, mon salaire net 1 675 € pour 200 heures. Qui voudrait travailler à ce prix? Pas les jeunes. Et pour Fabien, c'est compliqué de laisser aussi sa famille plusieurs jours pour un salaire de misère.
Merci pour vos messages, évidemment. Vous pouvez rejoindre la communauté de RTL Midi sur notre page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. On donne la parole justement à Gérard, qui nous appelle au 3210 depuis Clermont, si je ne me trompe pas. Bonjour Gérard.
Bonjour Stéphane, bonjour Christelle, bonjour les auditeurs. Moi je vous appelle parce que, moi j'ai 55 ans. Donc j'ai voulu faire une pause dans ce métier d'une dizaine d'années. Et malheureusement, maintenant avec la loi, on est obligé de passer la SCOS tous les 5 ans et avoir une carte conducteur parce que les tachygraphes, c'est fini au disque. Donc moi j'ai eu la malchance de ne pas avoir la carte chauffeur. Et la FCOS, pour la passer, j'ai plus le droit, je suis en fac droit à la MPE, quand on n'a pas les moyens de le passer, parce que ça a un coût quand même. C'est une semaine de stage, et je crois, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est autour de 800 € quand même. Alors donc, il y en a beaucoup comme moi. Nous, on a le permis. Là, l'année prochaine, je dois passer ma visite de permis. Je ne sais même pas si je vais la passer, parce qu'à chaque fois que je demande, les patrons me demandent tout de suite, vous avez la FCOS? Non, elle est plus bonne. Je dois la repasser. Bon, repassez-la, puis venez nous revoir.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour Gérard, Florence Berthelot?
Je pense que c'est justement le sens de l'initiative que l'on a prise avec Tremplin, c'est justement de faciliter le retour
parce
dans
que
le
lui,
secteur.
Il va y retourner, oui, mais
nous, on le prend tout de suite.
Et vous avez besoin de bras alors.
on le prend
on
tout
se dit
de suite.
Que c'est simple.
Donc l'idée, c'est effectivement de voir comment, avec les services publics de l'emploi, on peut trouver les financements, parce qu'il y en a pour justement permettre à ce monsieur de refaire ce qu'on appelle sa FCOS, c'est-à-dire formation continue obligatoire de sécurité, qui lui permet d'être employé tout de suite, ou de l'orienter vers une entreprise qui, justement, lui permettrait de financer. C'est l'entreprise qui financerait, avec certainement l'aide de la région, des fonds publics, ses financements, enfin, trouver ses financements pour qu'il puisse faire cette formation et être employable tout de suite. Donc, il y a des solutions. Il faut effectivement qu'il soit bien orienté. Et c'est là qu'on a un gros travail à faire avec, justement, même les services de Pôle emploi, qui parfois connaissent très mal notre secteur et qui connaissent très mal les systèmes qui permettent justement de remettre de tels salariés justement dans le secteur.
Dans le circuit.
Gérard, pourquoi y retourner? Pourquoi reprendre justement la route?
Parce que moi j'ai fait quand même 25 ans de route et donc ce métier-là, je l'aimais et je l'aime encore. Mais bon, je vous dis, là j'ai décidé de reprendre parce que ça me manque un petit peu. D'être toujours enfermé, c'est pas une solution. Moi j'aime bien être à l'air libre. Et donc pour en revenir juste une seconde, je me souviens qu'il y a quelques années en arrière, c'était dans le transport en commun. Dans le transport en commun, il y avait des jeunes que s'ils voulaient rentrer dans ce métier-là, la société mettait à leur disposition, payait un permis du permis de conduire. Mmh. Et pour ça, il fallait qu'ils signent un engagement d'un an dans la société, aussitôt qu'ils avaient leur permis de conduire. Donc moi, j'estime que celui qui a le permis comme moi, pourquoi ne m'en pas signer? Comme quoi qu'on reste dans la société, mais qui nous paye au moins la FCOS.
Oui, bien sûr, on a bien compris qu'il y a encore un petit peu de travail à faire de ce côté-là. Merci beaucoup Gérard. Juste un message rapidement, Florence Berthelot, pour ceux qui auraient envie de devenir chauffeur routier.
Alors, chauffeur routier, une fois de plus, comme je le dis, il y a d'autres métiers encore dans cette branche, hein, qui est très vaste. Il y a aussi le transport de voyageurs qui est concerné, le transport de déménagement. Eh bien, écoutez, dans la mesure où vous êtes intéressé, il va y avoir le site tremplin2017.fr qui va s'ouvrir pour déposer les candidatures. Il existe aussi des sites dédiés tels que Téclic, Emploi. On pourra d'ailleurs mettre les coordonnées sur le
site
de l'émission
Absolument.
Pour justement permettre aux gens de déposer leur CV et que les gens sachent que nous, on est prêts à les accueillir, même des gens qui ne viennent pas du tout du secteur des transports. Moi, je dis souvent, ceux qui sont dedans ne veulent plus en sortir. La difficulté, c'est de faire rentrer ceux qui sont à l'extérieur pour qu'ils y découvrent la passion de ceux qui y sont déjà.
Merci beaucoup. Merci Florence Berthelot, déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers. Merci à tous ceux qui avaient fait le 32-10.
32-10, 3-2-1-0. On va parler politique dans un instant et exclusion à venir des pro-Macron. Vous le savez, c'est l'un des débats du jour concernant les Républicains. Jacqueline a un sentiment et elle nous appelle au 3-2-1-0. On l'écoute avec plaisir dans un instant.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Stéphane Carpentier.
Les tarifs des PV de stationnement vont explosé, figurez-vous, au 1er janvier 2018, jusqu'à 60 euros à Lyon, 50 euros à Paris. Ce sont les villes, désormais, qui fixent les tarifs. Si ça vous fait réagir, n'hésitez pas, 3210, on en parle dans une minute avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes.
On revient à la politique en attendant le bureau politique du Parti des Républicains qui se tient en fin de journée tout à l'heure. On va enfin savoir si oui ou non les pro-Macron sont exclus. Ça fait des semaines et des mois que ça dure, vous le savez. Ça concerne notamment le ministre Gérald Darmanin, le secrétaire d'État Sébastien Lecornu ou encore le Premier ministre Édouard Philippe. Sans oublier les constructifs. On a écouté Arnould tout à l'heure qui nous disait qu'il était pour ces exclusions. On va donner la parole à Jacqueline qui nous passe un coup de fil de Dunkerque. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Christelle, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors vous êtes contre vous l'exclusion, hein ?
Oh ben tout à fait, mais tout à fait. Écoutez, ces ministres sont là pour redresser la France. Nous ne sommes pas là pour nous tirer dans les pattes, excusez-moi l'expression. C'est complètement stupide. Ils ont une mission, laissons-les faire cette mission. Laissons-les mener à bien cette mission. Moi, je fais partie de ces gens qui ne sont pas assez riches pour être riches et pas assez pauvres pour être pauvres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Français moyens. Moi, je suis retraitée, mon mari aussi, on va nous enlever pas loin de 2% sur nos retraites. Ben, tout ça, c'est pour redresser la France. Peut-être vous paraître stupide, mais si c'est pour redresser la France, pourquoi pas ? et laissons les faire leur mission.
J'allais dire que vous avez une attitude constructive, Jacqueline.
Oui, j'ai une attitude constructive. Je
Parce qu'il y a deux constructifs qui risquent d'être élus ce soir.
Hein. Oui, mais vous savez...
Exclu, pardon.
Comment vous dire ? Je suis d'origine gaulliste, donc le gaullisme, c'était le bien de la France, c'était la France. C'était pas ni la droite, ni la gauche, comme on le voit actuellement, d'une part. D'autre part, je considère que ces personnes, quand on s'est tous battus pour que Sarkozy vienne au pouvoir, on faisait partie, nous n'étions pas tous d'accord sur son programme. Il faudrait être stupide pour adhérer totalement à un programme. Donc voilà, ces gens-là, ces ministres-là, nous avons eu dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, pardon, Gérald Darmanin comme président. Mais c'est un président très accessible, tout le monde, il serrait la main à tout le monde. Mais Gérald, c'est vrai que nous le connaissons, Gérald est un ambitieux, mais Gérald est un homme intelligent. Il a les moyens de ses ambitions. Il a dit oui à un ministère. Vous savez ce qu'ils veulent le virer aujourd'hui ? Ce sont ceux qui auraient peut-être aimé qu'on leur fasse des propositions. Mmh. Alors ça, moi, je m'en méfie.
Alors, on va savoir concrètement dans les jours qui viennent s'ils sont sensibles ou pas au fait d'être exclus, puisque ça va être le cas ce soir, la fin du feuilleton. J'aimerais que vous écoutiez ce qu'en pense Édouard Philippe, le chef du gouvernement, le Premier ministre. Il a participé il y a quelques temps à l'enregistrement de l'émission Au tableau devant une classe d'enfants sur la chaîne C8. Ça avait marché très très fort pendant la campagne présidentielle. Et bien le Premier ministre, il parle justement de sa situation au sein du parti.
J'aime pas ce qu'ils sont en train de devenir, parce que je trouve qu'ils sont de plus en plus à droite.
Vous soutenez qui pour la présidence du parti ?
Personne. Non mais personne, c'est leur truc quoi. Je vais pas voter, ils veulent me virer.
Voilà, je vais pas voter, ils veulent me virer, Jacqueline. Comment vous réagissez à ça ?
Moi, je vais pas voter, je les vire.
Mais dites-moi, Jacqueline, au fond, est-ce qu'il n'y a pas juste un problème de ligne en ce moment chez les Républicains ?
Mais exactement, madame. Vous mettez le doigt sur le point sensible. Quand on voit, nous n'allons citer personne, mais nous sommes trop à droite chez les Républicains. La tendance qui est actuelle, c'est trop à droite. On est prêt à faire alliance avec les partis d'extrême droite. On est prêt à faire dérouler le tapis rouge aux gens qui seraient partis à l'extrême droite, qui seraient prêts à revenir. Mais tout ça, ce sont des suppositions. Mmh. Ayons donc un vrai programme, une ligne de conduite, mais pas celle de dire on va les exclure parce que vous comprenez. Non, moi je ne suis pas d'accord. On n'exclut pas des gens qui sont en passe peut-être de réussir. On ne sait pas, je ne sais pas. Moi, ce gouvernement a 6 mois, on verra bien. J'attends. Mais pour le moment, arrêtons les massacres.
Pas d'exclusion.
Voilà, on vous dit au revoir, Jacqueline. À très bientôt. Merci. De votre
N'hésitez profil. N'hésitez pas à nous rappeler. Hein.
Depuis Dunkerque. Merci de votre fidélité. Je vous précise concernant la politique, le Parti des Républicains et les exclusions à venir, que Thierry Soler, le constructif, est l'invité de Marc-Olivier Fogiel ce soir dans RTL Soir. Le coup d'envoi, c'est 18h et vous le savez, jusqu'à 20h. Dans un instant, on parle PV, stationnement, ça va coûter très très cher. On va saluer notre invité qui va en parler avec vous, c'est Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour.
Bonjour.
Et à tout de suite.
Stéphane Carpentier.
Christelle Rebière.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Deuxième invité des auditeurs ont la parole, donc Pierre Chasseret, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. On en parlait tout à l'heure dans le journal. Fini très bientôt les PV de stationnement à 17 euros dans toutes les villes. À compter du 1er janvier prochain, chaque ville fixera ses tarifs. À Lyon, par exemple, le PV coûtera 60 euros dans l'hypercentre, 35 dans le reste de la ville à celui qui ne sera pas passé par la case horodateur. Alors, Pierre Chasseret, votre association s'est engagée à publier la liste des maires qui s'engagent à ne pas réaliser d'augmentation.
Pourquoi ? Oui, puisque c'était ça l'histoire, en fait. L'histoire de ce premier texte de dépénalisation du stationnement, c'était la demande notamment d'une élue, dont on parle beaucoup, qui s'appelle Natacha Bouchard, la maire de Calais, et qui souhaitait abaisser le montant du stationnement dans sa ville. Elle voulait le repasser à 11 euros, comme c'était avant, parce qu'elle trouvait ça un petit peu ridicule de compter sur l'argent de l'automobiliste qui est garé 2-3 minutes de trop pour derrière enflouer un peu les caisses de la ville. Donc de cette bonne idée, entre guillemets, de cette bonne intention, est née la dépénalisation du stationnement et puis ces tarifs un petit peu farfelus qu'on voit apparaître partout en France, où même Paris a été battu par Lyon cette fois-ci. Paris a annoncé 50 euros, Lyon a annoncé 60 euros. Je voudrais quand même qu'on se pose un peu 2-3 questions quand même. 60 150 euros, c'est colossal. Hein. Le SMIC en France net, on est à 1100 euros à peu près.
Vous mettez... L'idée, c'est qu'il n'y ait plus de voitures ventouses.
Non, mais ça, ça ne marche pas. Il y a des villes où le stationnement est gratuit et il n'y a pas plus de voitures ventouses. À Calais, la politique de stationnement est réussie. Quand on en vient à mettre des tarifs aussi délirants, y compris sur les heures payantes de stationnement, vous savez combien c'est ? L'hypercentre pour se garer à Lyon, 1h30, 5 euros. Vous savez combien c'est à Paris ? 1h, 4,80. Ouais. Vous trouvez ça normal ?
Daniel est scandalisé. Il est auditeur de RTL Midi. Il nous appelle depuis le Val-de-Marne. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Ravi de vous accueillir. Dites-nous tout.
Je voudrais tout d'abord saluer les auditrices et les auditeurs d'RTL, dont j'écoute votre onde depuis de très nombreuses années. Je suis pour ma part totalement scandalisé par cette nouvelle disposition qui a été prise de manière à libéraliser le montant des stationnements dans les communes, de sorte de le faire passer de 17 euros au montant choisi par chaque commune, 60 euros pour certaines communes et 50 euros pour Paris, par exemple. Je me mets à la place de la personne qui a un salaire au SMIC de 1481 euros net.
Brut.
Qui va payer donc une somme quand même colossale, une augmentation de plus de 300% du montant du stationnement, pour une infraction qui n'est, même si elle peut gêner effectivement les usagers, n'est quand même pas gravissime en soi. Donc,
mais en même temps, si on en est arrivé là, c'est peut-être Pierre Chasseret, et je parle par exemple d'un exemple que je connais bien, c'est Paris, c'est parce que personne ne paye au fond.
Et bien voilà, je l'attendais.
Non, personne ne paye.
Je l'attendais, ça y est.
On va obliger les gens à faire payer.
Alors je l'attendais celle-ci parce que ça, c'est la communication de notre cher maire de Paris qui a été reprise par beaucoup.
Non, c'est pas
une réalité.
C'est une expérience empirique, je peux vous dire.
C'est pas empirique du tout. Je vais même vous choquer, à Paris et dans les autres villes de France, il y a une majorité de gens qui paye. Et ce n'est pas les 90 ou 75% de fraudeurs qu'on nous annonce. Comment est calculé le montant des fraudeurs ? Eh bien, en fait, les villes prennent l'intégralité des places payantes de stationnement. Elles multiplient par tout ce que ça peut leur apporter si elles sont, entre guillemets, occupées tout le temps, en continu, toute l'année. Et ensuite, elles font la multiplication et regardent ce qui potentiellement peut être dans les caisses de la ville. Et après, elles comparent à ce qui est véritablement dans la caisse de la ville. Et là, elles se disent « Ah ben, il y a 90% de fraudeurs ou 75% comme à Lyon ». C'est pas vrai, parce que ça prend pas en compte les résidents, ça prend pas en compte les places qui sont neutralisées pendant Vigipirate, ça prend pas en compte tout un tas de choses qui fait que quand on refait la méthode de calcul en prenant tout cela en compte, et on avait fait avec l'association 40 millions d'automobilistes et un avocat de droit routier, Jean-Baptiste Yoska, une opération pour... Regardez, véritablement, avec un huissier de justice, combien de personnes payaient. Eh bien, on a une majorité à plus de 60-70% de gens qui payent. C'est ça, la vérité.
Mais s'ils privatisent les contrôles, c'est bien pour que ce soit plus efficace, non ?
Alors, privatiser les contrôles, ça, c'est encore autre chose. C'est la volonté des villes qui vont se dire, ben là, on va rapporter un petit peu de sous. Alors, comment ça va fonctionner ? Il y aura des voitures équipées d'un système LAPI, lecture automatique des plaques d'immatriculation. Et elles vont pouvoir voir si vous êtes une minute de trop ou deux minutes de trop sur votre place de stationnement. S'il y avait la queue à la boulangerie, tant pis pour vous, vous paierez. Donc, elles vont vous envoyer ce PV. Prenons l'exemple de Lyon, par exemple. 60 euros de PV si vous avez débordé un petit peu et qu'il y avait la queue à la boulangerie. Ça fait quand même un peu cher la chocolatine ou le pain au chocolat, selon l'endroit de France où on se trouve. Et ensuite, vous allez vouloir contester, peut-être. Ou si vous laissez un petit peu de temps passer, eh bien, il faut savoir, derrière, alors le système est très compliqué, si vous ne payez pas dans les 3 mois, la Direction des Générales des Finances Publiques vous envoie une majoration. 50 euros, on est à 110 euros le croissant. Ça commence à faire très mal. Et ensuite, derrière, vous avez toute une voie de recours. Et si vous voulez encore déposer un recours, il va falloir vous déplacer à l'endroit compétent qui a été choisi. Ce sera Limoges. Je doute que tous les Français aient envie d'aller faire un petit tour à Limoges pour contester un PV de stationnement.
On va à Bordeaux rejoindre...
Est-ce que je peux rajouter quelque chose ?
Rapidement, Daniel, allez-y, s'il vous plaît.
Oui, alors je voudrais quand même attirer l'attention des auditrices et des auditeurs que finalement, dans ce pays, on se rend compte que à la limite, il vaut mieux être délinquant pénal que d'être simple automobiliste, parce que lorsque vous venez à, et je ne recommande pas de commettre ce genre d'acte, bien au contraire, mais comme il y a de plus en plus de vols simples, vols dans les magasins et autres, les parquets sont tellement surchargés de procédures de cette nature qu'il y a des classements sans suite quasiment systématiques. Ce qui fait que lorsque vous êtes pris à voler dans un magasin, eh bien, écoutez, vous avez 8 à 9 chances sur 100 quand c'est la première fois que vous avez un simple rappel à la loi.
Les automobilistes sont des cibles faciles. Restez avec nous, je vous propose d'écouter William qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous avez envie de prendre l'exemple de Londres.
Oui, je pense que que c'est un bon exemple parce que ça permet vraiment à tout le monde de stationner. Vous savez bien qu'à Londres, il y a la congestion charge, ce qui veut dire que pour rentrer dans le centre de Londres, il faut déjà payer entre 12 et 13 euros par jour. Après, le stationnement, c'est un petit peu comme à Paris, c'est 4 euros de l'heure, 4 ou 5 euros de l'heure. Bon, c'est en livres sterling, donc ça fait un petit peu plus. Et après, vous avez vraiment pas du tout de marge de dépassement parce que vous avez des escadrons de scooters qui prennent vos voitures avec des appareils photo. Et si vous dépassez la moyenne dans le centre de Londres, c'est 7 minutes de dépassement. Et là, vous avez un PV ou un sabot. Et c'est même pas un PV ou un sabot, ils appellent tout de suite la dépanneuse. La dépanneuse, il y en a des brigades entières, et ils enlèvent la voiture, et pour récupérer la voiture, c'est 250 euros.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'on a de la chance finalement.
D'abord, la voiture est tout de suite enlevée. Pourquoi ? Parce que leur argument, c'est de permettre aux autres automobilistes de stationner.
Et vous en pensez quoi, vous, de ce système, William ?
Il y a bien pire que ça, en plus. Si, vous, par exemple, vous revenez, mais vous avez mis 2 heures de stationnement, vous décidez de rester un peu plus longtemps et remettre de l'argent dans le parcmètre, le fait de ne pas avoir déplacé sa voiture, vous êtes quand même pénalisé. Si votre voiture dépasse, elle n'est pas à sa place, elle dépasse de 20 cm à l'avant ou à l'arrière, vous êtes pénalisé. Ce qui permet, en fin de compte, moi je l'ai vécu, je trouvais ça un petit peu sordide au début, mais franchement...
Du coup, ça marche, William, ou pas ?
Ça marche très bien, ça marche très bien. Les gens font très attention. Ça permet de pouvoir stationner dans la ville, parce que j'étais à Paris encore, voilà pas longtemps, j'ai voulu stationner, c'est n'importe quoi. Le stationnement, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il faut... Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de... Et là, je pense que la punition au porte-monnaie, déjà que vous avez à payer pour rentrer, et en plus, vous avez... surtout que maintenant, il y a des portiques en France qui ne servent à rien, qui pourraient très bien servir à mettre une charge au lieu de faire un jour sur deux, suivant les plaques d'immatriculation. Mais je pense surtout que le respect des autres et la tolérance, c'est que tout le monde puisse stationner le temps...
À son tour.
Sauf que là, on a confondu deux choses. On a confondu la capacité de stationnement et le nombre de places disponibles et le montant du PV. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui dépasse son temps, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on va forcément libérer la place. Ça peut être quelqu'un qui revient pour repayer encore un montant. Si on prend l'exemple de Paris ou de beaucoup de villes de France, moi je trouve que quand on est dans une ville qui verbalise trop, c'est la preuve qu'il y a un vrai défaut, une vraie faillite de politique de stationnement. Dans une ville correctement gérée, on devrait pouvoir stationner et à des tarifs raisonnables, il y aurait plus de monde qui paye.
Voilà. La réalité, c'est que ça va fortement augmenter à partir de l'année prochaine. Merci Pierre Chasseret de nous avoir accompagné, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Et merci à nos auditeurs et William, le dernier en date, à avoir communiqué et exprimé son sentiment au 3-2-1-0.
Vous écoutez RTL.